Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Dans une autre vie, j'ai été professeur de français. J'ai fait ma première entrée en septembre 2001. Je n'avais pas encore vu grand-chose de la vie, mais j'ai été nommée en zone d'éducation prioritaire dans un collège PEP 4, poste à exigence particulière niveau 4. Cela voulait dire que ce ne serait pas facile. Je me souviens de la boule au ventre le premier jour, en traversant la cour. Je m'étais habillée en dame, avec des talons hauts pour les impressionner. Ça n'a pas trop mal marché, sauf avec une classe de quatrième qui m'a carrément bizutée. Ils ont refusé de s'asseoir, ils faisaient comme si je n'étais pas là. J'ai passé une bonne partie de l'heure à hurler sur l'estrade avec mes talons hauts. Ma première semaine de cours s'est terminée comme ça. Le mardi suivant, c'était le 11 septembre 2001. L'horreur, l'effarement planétaire. Et le 12 septembre, il a fallu retourner au collège et trouver quelque chose à dire aux élèves. Je me suis rarement sentie autant débutante. Heureusement, j'avais des petits sixièmes. Je leur ai lu un texte de Pierre Georges qui était paru dans le journal Le Monde qui s'appelait « Les virgules noires ». C'était moyennement approprié. J'aurais sans doute mieux fait de les laisser s'exprimer, mais tout le monde était sous le choc, donc c'est passé. Un peu plus tard, dans la semaine, le vendredi je crois, il y a eu la minute de silence à midi. Quand j'ai vu dans mon emploi du temps que ça tombait sur l'heure de cours que j'avais avec les quatrièmes chauds bouillants qui m'avaient bordélisé la semaine d'avant, j'ai paniqué. Mais il a bien fallu y aller. De l'autre côté du couloir, juste en face de ma salle, à cette heure-là, il y avait un professeur d'histoire géo, très grand, très maigre, très respecté et très bon prof aussi, comme je l'ai découvert par la suite. Lui, il faisait toujours cours porte ouverte, tellement il était en confiance. En passant dans le couloir, on l'entendait gérer ses classes comme un dieu, il n'avait jamais besoin de crier. Alors pour la minute de silence, je me suis dit que moi aussi, j'allais laisser ma porte ouverte. D'abord pour que le professeur d'histoire géo d'en face vienne m'aider si le chahut des quatrièmes recommençait, mais aussi parce que c'était une manière d'y aller au bluff, de dire « je ne vois pas pourquoi je fermerai la porte, je n'ai pas peur de ce qui va se passer, j'ai confiance en moi, en vous aussi, ça va rouler ». Et devinez quoi, ça s'est bien passé, à peu près en tout cas. Ensuite, j'ai continué à faire cours porte ouverte pendant les 5 années scolaires où je suis restée dans ce collège. C'est la meilleure idée qu'on m'ait donnée. Alors aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on va faire dans Les Pieds sur Terre. Écouter des profs qui font cours porte ouverte, d'une certaine manière. Qui nous laissent rentrer un moment dans la classe en racontant un souvenir précis, quand ça coince, que ça résiste, ce qu'ils ont fait, essayé, inventé. C'est jusqu'à 14h, 4 histoires, 4 professeurs, émancipation générale, les mains dans le cambouis pédagogique par Fabienne Lomonier, Alice Babin et Pauline Mocor.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors moi je m'appelle Benjamin Marolle, je suis enseignant d'histoire-géographie dans un collège de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est un établissement d'éducation prioritaire, renforcé. Je suis prof depuis 20 ans, précisément. C'est un beau métier. Donc, il y a quelques années de cela, j'étais en classe avec un niveau 3e, donc 25 élèves dans la classe. On était en début d'année, puisque c'était le premier chapitre de l'année sur la Première Guerre mondiale. Les cours se sont bien déroulés depuis le début de l'année, la classe est en confiance, je suis en confiance avec eux. Et au moment d'aborder la question du génocide des Arméniens, un élève me lance cette sentence me disant « mais est-ce que vous avez des preuves ?» Et c'est pas vrai en fait, il n'y a pas eu de génocide par le gouvernement ottoman. Là évidemment, on se dit « ah, problème, il faut réagir vite ». Et donc du coup, évidemment, on est un peu décontenancé dans ces cas-là, parce que c'est pas fréquent, c'est pas commun, donc on a quand même un auditoire, on a des élèves qui sont évidemment immédiatement les yeux tournés vers l'enseignant pour savoir un petit peu comment il va répondre à cette interpellation. Alors l'avantage, c'est que son assertion avait été prononcée au début en fait de la séance, donc ça m'a laissé du temps pour pouvoir à un moment dérouler mon cours et passer en revue l'intégralité des documents. J'aborde toute une série de sources qui sont, donc là pour le coup, des éléments factuels incontrables, des images d'archives, des témoignages de survivants, des documents officiels signés de la main du ministère de l'Intérieur, envoyés donc au gouverneur de province avec des ordres de tuer tous les hommes, et puis d'emmener évidemment les femmes et les enfants dans le désert. Mais la séance se termine, ça sonne, et donc mes élèves se lèvent, vont quitter la salle, moi je croise le regard de mon élève. Je comprends très vite que le travail qui a été fait pendant la séance n'a pas porté ses fruits. Et donc, j'y réfléchis sur le chemin de la salle des profs. Je me rends compte qu'il va falloir revenir en fait avec lui, et uniquement avec lui, sur cette question. Parce que pour moi, la classe a compris, voilà, lui pas. Donc, je pense qu'il s'est passé au moins 48 heures. Après mon cours, je lui demande de venir à mon bureau, et je lui expose les choses, je lui dis, si ça te convient, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question du génocide arménien, et puis qu'on en discute tous les deux. Il accepte, et puis il me dit, non, ça ne me pose pas de problème. Et là, ça a été privilégié, parce que quand on est dans un échange d'individu à individu, il y a des choses qui s'installent, d'autres qui disparaissent, c'est-à-dire qu'il ne prend pas à témoin la classe, il n'est pas, on va dire, dans une volonté de s'opposer à la parole scientifique. Ou à la... Il était gêné, entre guillemets, puisqu'il me faisait comprendre que, sans me le dire, que ce qu'il me disait était des propos, on va dire, reportés, tels quels, de son environnement familial. Et à l'issue de cette demi-heure d'échange avec lui, où je lui ai donné à voir de nouveaux documents, et simplement, je le faisais verbaliser. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça signifie? Et progressivement, lui faire le cheminement qu'on avait déjà fait collectivement en classe, mais le faire individuellement et séquencer. Alors surtout, je lui ai pas demandé à la fin, bon ça y est, je t'ai convaincu, donc maintenant c'est bon, tu fais un trait sur ce que tu pensais. Voilà, donc je sais pas si t'as compris, et peut-être que je le saurai jamais, mais en tout cas, je pouvais pas te laisser, on va dire, dans cette erreur. Et mon devoir était à un moment d'amener les éléments qui te permettent, toi, de te faire ta propre opinion. Il m'a rien répondu, mais on s'est séparés, on va dire, sur un échange qui était cordial et sans aucune tension. Voilà, c'est-à-dire que, entre guillemets, la confiance n'était pas rompue. Quand un élève, à un moment, à un adulte qui consacre une demi-heure de son temps au travail pour pouvoir revenir avec lui sur une notion, les élèves sont très demandeurs, en fait. Ça sera vrai en mathématiques, ça sera vrai évidemment en histoire. C'est ce qui est de moins en moins possible aujourd'hui. Avec les effectifs qu'on a, c'est de plus en plus compliqué, on va dire, de mener ce genre de mission qui permet de faire bien son travail, en fait. Voilà.
J'ai fait toutes les explications, donc on n'a plus qu'à lire cette synthèse. Thomas, on y va ?
La décentralisation créée en 1982.
Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 31 ans, je suis professeur de lettres modernes depuis 7 ans maintenant, c'est ma 7e année, et j'ai toujours enseigné dans des zones REP, donc réseau d'éducation prioritaire. Et il se trouve que du coup, je suis gay. Et il y a 4 ans, alors que l'année se passait très très bien, j'ai vécu des micro-incidents au sein de mon établissement que je ne comprenais pas, à savoir des regards insistants de la part de certains élèves, des moqueries quand je passais dans les couloirs, et un élève qui m'a insulté ouvertement de PD, en plein couloir, avec mes classes. Dans mes cours à moi, je n'avais aucun problème. C'était vraiment dans l'établissement en lui-même. Et c'était pas perceptible. Je ne comprenais pas, mais j'avais un sentiment d'insécurité. Et puis, un jour, j'ai fait cours à mes sixièmes, à des élèves adorables, une classe adorable. Et l'un de mes élèves, dont je me souviendrai toujours, est venu me voir à la fin du cours, en me disant, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, comme il venait toujours me voir à la fin des cours pour me faire des dessins, ou pour me dire qu'il avait bien aimé la séance, etc., je m'attendais à ce qu'il me parle de lui ou à ce qu'il me parle du cours. Et il me dit « Non mais monsieur, ce que je vais vous dire, ça va pas vous faire plaisir. Ça va pas être agréable. » Et cet élève m'a dit « Bon, monsieur, en fait, ça fait 3 semaines qu'il y a une photo de vous qui circule au sein de l'établissement. » Il m'a dit qu'il n'avait pas la photo sur son téléphone, mais qu'elle circulait sur un réseau social, qu'il ne connaissait pas parce qu'il était en 6e et qu'il lui avait pas cette utilisation. Qu'en revanche, il l'avait vu passer sur un téléphone qu'on lui avait montré. Il m'a dit que c'était une photo de moi, dans mon appartement, et que c'était un selfie, et qu'il y avait un dessin qui avait été ajouté, et quelque chose qui avait été écrit en dessous. Je lui ai dit quel était ce dessin, il n'a pas voulu me le dire. J'avais cours juste après, avec mes quatrièmes, pareil, une classe que j'adorais. Et en fait, de savoir qu'il y avait une photo sur moi qui circulait et de savoir que ça faisait 3 semaines que j'avais un sentiment d'insécurité que je ne m'expliquais pas, je ne me suis pas sentie capable d'affronter les élèves au cours d'après. Et en fait, j'ai croisé une de mes collègues et amies dans le couloir. Et je lui ai dit, hein, j'ai pris entre 4 yeux dans le couloir, je lui ai dit, il se passe quelque chose de difficile là pour moi au collège, il faut que j'aille voir la direction tout de suite et je suis pas capable de prendre mes cours. Elle avait pas cours, donc elle a pris mes élèves. Du coup, je suis descendue à la direction. Dans le couloir, j'ai croisé une de mes meilleures amies qui est aussi au collège. Elle m'a dit, je viens avec toi. Et en marchant pour aller dans le hall de l'administration, j'ai croisé une de mes anciennes élèves que j'avais l'année d'avant, qui était en 3e cette année-là, que j'avais en 4e, qui m'a arrêté dans le couloir, qui m'a mis la main sur le bras et qui m'a dit, monsieur, je sais pourquoi vous allez voir la principale. C'est dégueulasse ce qui se passe et je suis vraiment triste de ce qui vous arrive. Ma collègue lui a dit, est-ce que t'as la photo? Elle nous a dit qu'elle l'avait, qu'on lui avait envoyé et qu'elle n'en était pas à l'origine, qu'elle ne l'avait pas transférée. Et hyper gentiment, elle nous a envoyé la photo. Alors c'était une photo simple, hein. C'était très simple, c'était un selfie que j'avais utilisé comme photo de profil Facebook. Où j'étais donc de face, forcément, dans mon appartement. Et ce qui avait été ajouté, c'était clairement un dessin d'enfant, une bêtise, j'ai envie de dire, d'enfant. Donc à savoir les contours d'un pénis dans ma bouche, avec écrit en dessous « Il est quand même beau, ce PD ». Je l'ai vraiment vécu comme un acte homophobe. Donc j'ai été voir ma principale. Je lui ai dit, écoutez madame, j'ai connaissance qu'une photo circule sur moi. Je veux qu'on retrouve l'élève qui est à l'origine de cette photo parce que je veux que ça s'arrête là. Stop, je le vis trop mal. Sauf que ça prenait quand même plusieurs semaines pour qu'elle remonte à l'origine et qu'elle avait beaucoup de mal à le faire. Je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je prenne d'arrêt parce que fallait que je montre que j'étais au-dessus de ça. Et que ça ne me touchait pas en tant que personne, et que je voulais rester le professeur de français que j'étais dans cet établissement, et pas la personne atteinte. Sauf que voilà, j'ai pas réussi à faire face, j'ai pris 3 semaines d'arrêt parce que je n'y arrivais pas, et parce que j'avais le sentiment que bah, les élèves me regardaient différemment. Au bout de 3 semaines, je me sentais plus fort pour revenir, donc je suis revenue, et en revanche j'avais tout de suite dit à la direction que je voulais pas revenir, comme si rien ne s'était passé, et reprendre mes séquences de lettres sans aborder le sujet. Donc j'avais réfléchi à une séance, et du coup j'ai commencé la séance en disant « Bon, on va pas faire comme si c'était rien passé, je voudrais que on affronte la situation, parce que je leur ai dit que c'était pas facile pour moi, et que c'était certainement pas facile pour eux, mais que je voulais qu'ils expliquent, selon eux, pourquoi j'avais été en arrêt maladie. » Silence de mort dans la salle. Aucun élève ne prend la parole. Et puis, je me souviendrai toujours de cet élève au premier rang qui lève la main et qui dit « Bah, monsieur, je pense que c'est parce qu'il y a une photo de vous qui a circulé et que ça vous a touché. » Donc, je lui ai dit oui et j'ai demandé de décrire cette photo. Et là, pareil, deuxième silence. Et une autre fille de la classe lève la main et dit « Bon, bah voilà, monsieur, sur cette photo, on vous voyait, etc. » Et elle décrit la photo telle qu'elle est. J'ai tout de suite dit, bon, on va pas parler de moi, on va parler des faits, juste des faits. En quoi ce qui s'est passé est grave selon vous? Alors j'utilise le mot grave, mais je veux pas dramatiser, c'est pas dramatique. Mais c'est juste que ça peut toucher, enfin, ça m'a touché et je pense que ça peut toucher, et je voulais leur montrer que ça, dans la société et pour d'autres personnes, ça peut toucher. Et donc d'autres élèves ont pris la parole et ils ont dit, bah c'est grave parce que c'est une atteinte à votre vie privée. Et puis, parce que, bah voilà, il y a une insulte qui est proférée à votre encontre, donc c'est du dénigrement. Donc j'ai dit d'accord à toutes ces raisons, j'ai dit effectivement, pour toutes ces raisons, ce n'est pas normal, mais surtout, au-delà de moi, en quoi c'est grave selon vous? Et donc là, pareil, une autre élève a pris la parole. Elle a dit, bah monsieur, parce que peut-être que dans le collège, il y a des élèves qui sont en train de découvrir ou de comprendre ou de s'interroger sur leur orientation sexuelle, et que ça peut certainement les toucher de voir qu'une photo de quelqu'un qui serait prétendument homosexuel circule autant avec cette insulte et cette publicité, et ça peut vraiment leur faire du mal. Et c'est là où je voulais en venir. Et donc là, tout est sorti. Et là, la parole était libérée, et c'était apaisé. Et en plus, le débat était plus centré sur moi et sur ce qui m'était arrivé, mais sur un fait de société. Et donc là, j'avais gagné, entre guillemets. Enfin, j'avais gagné. En tout cas, j'en étais arrivée là où je voulais en arriver avec eux. Et à la fin de la séance, ma principale adjointe est intervenue et elle a demandé aux élèves qui avaient vu circuler cette photo de lever la main. 7 élèves ont levé la main. Ils étaient hyper gênés hein, de lever la main et de me regarder en face. Et ma principale adjointe a demandé qui est à l'origine de cette photo. Est-ce que la personne qui est à l'origine de cette photo peut lever la main? Et cet élève a levé la main. C'est un élève que j'aurais jamais pu suspecter. Un élève en plus que j'appréciais beaucoup. Donc la séance s'est terminée et les élèves sont... Enfin, beaucoup d'élèves sont venus me voir à la fin en me disant « Monsieur, on est vraiment dégoûté de ce qui vous est arrivé. » Il y a des élèves qui m'ont dit « On est trop contents que vous soyez revenus. » Il y en a d'autres, en plus, ils sont trop cool, ces gamins. Ils m'ont dit « Monsieur, nous, on adore votre style. On aime trop comment vous vous habillez, donc restez comme ça. » J'avais envie de leur faire un check, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'était trop touchant et hyper émouvant. Et cet élève, en l'occurrence, qui avait levé la main et qui était à l'origine de la photo, est venu me voir en s'excusant. Mais en fait, en s'excusant avec un sourire et en s'excusant sans comprendre que ce qu'il avait fait, ça m'avait touché, en fait. Et son incompréhension, alors qu'on venait d'en parler pendant une heure, je me suis dit, bah en fait, non, là, Lucas, t'as pas gagné sur ta séance entièrement. T'as encore un élève qui ne comprend pas que ce qui s'est passé n'est pas bien et n'est pas normal. Donc je l'ai emmené à la direction, on a été discuter avec lui, et c'est là qu'on a compris qu'en fait il était complètement inconscient de ce qu'il avait fait. Mais vraiment, c'était... Alors du coup, c'est là où j'ai compris que c'était pas du tout de l'homophobie. Il a dit « bah moi je pensais pas faire quelque chose de grave, j'ai transféré la photo ». Sauf qu'en fait Snapchat ça va très très vite, c'est de l'instantané. Et il le dit en plus en toute innocence, il dit « je pensais pas que j'arriverais à 2900 vues ». Donc là, autant vous dire que le chiffre m'a fait mal. Je me suis dit, c'est chouette, je suis une star dans cette ville. Avec toute l'ironie que ça implique. Mais en fait, il a été dépassé. Pour lui, c'était une bêtise, une petite bêtise, et il n'avait pas eu conscience de l'incidence que ça avait pu avoir. Je me suis dit, c'est l'occasion de monter un projet. Alors, en troisième, il y a des projets d'éducation artistique et culturelle qu'on peut mener sur divers thèmes. J'avais senti que ça pouvait être intéressant d'aborder la question des discriminations sexistes et du genre. Parce qu'en fait, malgré tout, je pense que si j'avais senti ces regards, etc., c'est aussi parce que ce qui m'était reproché, c'était mon aspect un peu trop féminin. J'avais les cheveux longs, je suis très fin au niveau de ma silhouette, voilà. Et puis, il y avait déjà un projet sur le sexisme et sur ces discriminations sexistes qui existaient au collège, d'une collègue que j'admire beaucoup. Et du coup, j'ai réuni les deux projets pour n'en faire qu'un seul. Et au final, ça fait 3 ans que ça tourne, ça fonctionne très bien. C'est un projet interdisciplinaire. Donc j'ai une collègue de technologie, une collègue de mathématiques, une de PS. Enfin voilà, dans quasiment toutes les matières, d'anglais qui mènent ce projet. Avec moi et avec la classe, j'ai été impressionnée par l'engagement, voire par le féminisme de nombreux élèves. Alors, principalement des filles, mais pas uniquement des filles. Donc ça aussi, je trouve ça très chouette. Sur MeToo, ils en parlent. Sur le harcèlement de rue, ils en parlent aussi. Sur le mariage pour tous. Et il y a des garçons qui osent dire... Bah moi, je m'habille, j'ai du rose en fait, hein. j'ai des baskets roses, j'ai un sweat rose, et alors, quel est le problème? Et puis, il y a aussi des garçons qui vont dire « Oui, mais l'homme, ça lui travaille dans la famille, sinon c'est pas un homme. » Spontanément, ils vont dire « Ah, mais en fait, monsieur, ça pose vraiment la question de « Est-ce qu'on est libre d'aimer qui on veut ?» Est-ce que ça pose la question des mariages arrangés? Ça pose la question de « Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un issu d'une autre religion? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un du même sexe que soi? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas des mêmes idées politiques ?» Et ils ont un niveau de débat qui est très intéressant. Je me sens hyper à l'aise dans mon établissement aujourd'hui. J'adore mon travail, j'adore aller travailler. J'adore mes élèves, j'adore enseigner. Ça ça fait beaucoup de j'adore, mais c'est pas grave. Et sincèrement, bah, il se trouve que quand j'ai vécu ce micro-événement, j'avais un peu perdu la foi dans mon travail. Je m'étais dit, pour une fois que ma vie professionnelle était atteinte, ça a vraiment fait branler quelque chose chez moi. Et en fait, non. Là, ma vie professionnelle, le pilier, il s'est reconsolidé. Et voilà, j'ai foi en mon métier et en mes élèves et en les citoyens qu'ils seront plus tard.
Tu peux expliquer ce que tu fais ?
On est en train de faire une créature qui s'appelle Zibulon. C'est un petit personnage qui a la tête plus grande que le corps et on doit faire une bande dessinée à partir de notre dessin de notre choix.
Pareil, regarde, il y a des boîtes ici.
Il y a quoi dedans?
C'est quelque chose.
Ah, des pastels.
C'est des pastels pour les enfants.
Merci.
Donc, je m'appelle Saïd Bailal. Donc, je suis professeur de mathématiques. J'enseigne au lycée Pasteur, Louis Pasteur à Strasbourg. Et donc, un jour, je devais aborder les probabilités en classe de seconde. C'était un groupe, pas toute la classe, parce qu'il fallait travailler à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur personnel, donc il fallait travailler dans la salle info. Donc je suis parti d'un problème célèbre, qui s'appelle le problème du duc de Toscane. On va lancer 2 dés. On regarde les numéros obtenus. On fait la somme des numéros obtenus. Et le problème, est-ce que j'ai plus de chances d'obtenir, quand je lance 2 dés, d'obtenir une somme égale à 9 ou à 10. Voilà le problème, comment il l'avait posé le duc de Toscane. La théorie, on l'a, qui nous permet de comprendre, c'est plutôt le 10 que le 9, dont la probabilité est plus grande. Mais avant de faire le calcul des probabilités, de faire le cours, etc., les élèves ont besoin de faire une simulation d'un grand nombre de lancers et de constater quelle est la somme qui va être le plus obtenu, est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 9? Donc, je leur ai dit, vous allez vous mettre sur ordinateur, voilà comment on fait pour simuler le lancer d'un dé sur ordinateur. Et là, parce qu'il y avait une mise, quelqu'un qui va miser, je ne sais pas, 5 ou 10 euros, et puis il gagne la somme obtenue. Et c'est là où il y a une fille qui me dit, mais monsieur, mais c'est, le jeu c'est haram. Le jeu de hasard c'est haram. Haram, ça veut dire interdit par la religion musulmane. Alors, je ne sais pas si parce que moi, je porte un nom d'origine musulmane, arabe, qui l'a fait réagir comme ça, quoi. Mais je ne me braque pas toujours quand j'ai un comportement ou une parole un peu provocante de la part des élèves. Mais là, j'ai pas trouvé de touche d'humour ni rien. J'étais choqué. D'autant plus qu'il y a d'autres élèves aussi qui disent « Ouais, monsieur, c'est haram, des garçons, des filles. » Et là, je me suis dit « Ils sont sur ordinateur. » Donc, je leur ai dit « Vous allez taper le mot, vous cherchez l'étymologie du mot hasard, d'où il vient. » Ils ont cherché, ils ont trouvé que le mot hasard, ça vient de l'arabe. Parce qu'il vient d'un mot « zahar » qui signifie « la chance » actuellement. Mais au départ, au Moyen-Âge, ça désignait un jeu de dés. C'est-à-dire, dans les pays d'Afrique du Nord, ils étaient musulmans et ils jouaient au dés, quoi. C'est ça ce que je leur ai expliqué après, quoi. Donc le mot hasard, ça vient de l'arabe. Ah oui, monsieur, ça vient de... il y a un changement. Donc ils étaient beaucoup plus réceptifs parce que j'ai inversé la situation. C'était eux, ils étaient étonnés que ce mot français, bien français, qui n'est pas d'origine latine, il est d'origine arabe. Et donc je leur ai dit, voilà. Il y a la religion et puis il y a la science. Et que même au sein de l'islam, il y a beaucoup d'incitations. L'islam incite beaucoup au savoir, quoi. Demande aux gens d'apprendre. Je peux être musulman, mais quand il s'agit de la science, c'est la science, quoi. Et j'ai raconté aussi sur le fait que apprivoiser le hasard, mathématiser le hasard, il y a eu des tentatives déjà pour ça, faites au nord du Maroc, dans une ville qui s'appelle Ceuta, au XIIe, XIIIe siècle. C'est là où il y a eu les premiers balbutiements pour modéliser le hasard à l'aide des mathématiques, c'est-à-dire le rendre calculatoire, quoi. Et là, je leur ai dit, et maintenant, avec ma manière toujours théâtrale, je suis connu pour ça, et maintenant, vous vous mettez au travail, et vous allez tout faire pour être à la hauteur de vos ancêtres qui ne se sont pas posé la question si c'est haram ou si c'est halal. C'était pas curiosité intellectuelle. Ils voulaient comprendre un phénomène et voilà. J'ai pas eu de contestation. Ils se sont tous mis au travail, quoi.
National, si tu sais pas placer, je te dis n'importe quoi, les États-Unis sur une carte, pour les relations internationales, tu risques de nous poser des problèmes. Mais tu vas apprendre. Les gens apprennent. On apprend en grandissant. Encore heureux. Votre vie s'arrête pas à la fin de la troisième.
Je m'appelle Léon Loiseau. Je suis professeur de philosophie au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec depuis maintenant 6 ou 7 ans. J'aime beaucoup ça. J'ai mis du temps, en fait, d'une certaine façon, à l'apprécier. C'était pas toujours évident au début. Je pense que j'aime m'enseigner de plus en plus, en fait. Ouais. C'est assez troublant et assez émouvant parce que on fait cours, évidemment, d'une manière qui soit la plus ouverte possible. Mais on fait quand même aussi cours principalement avec ce qu'on pense et avec ce qu'on est. Je veux dire, y a pas de... on peut pas se dissimuler. On a un certain style, on a une certaine approche, on a des préférences, on a des auteurs avec lesquels on aime bien travailler, d'autres pas du tout, etc., etc. Et donc, on retrouve un peu de soi au bout de 2 ans chez des étudiants. Et donc, j'ai le sentiment que de raconter une anecdote concrète, comme ça, d'essayer d'encapsuler une petite histoire, aura un côté faux. Parce que ce qu'il y a de plus significatif et qui ne peut pas apparaître dans une anecdote ou dans une histoire, c'est la construction d'une confiance. Il faut que eux me fassent confiance, évidemment, mais il faut aussi que moi je leur fasse confiance pour être capable de comprendre, d'interpréter, de réfléchir. Sans doute aussi, je dois reconnaître, une autre raison pour laquelle j'ai pas forcément très envie de raconter une anecdote, c'est que je trouve, j'imagine que ça peut sembler bizarre, mais que dans la relation d'enseignement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité aussi. Alors c'est une intimité qui est partagée avec une classe entière, hein, mais au fond, c'est des histoires personnelles. Moi, c'est certain que par rapport aux récents événements, moi, c'est dès qu'ils se sont produits, j'ai eu envie de silence. Mais de silence de toutes parts, d'ailleurs, hein, de tous côtés, hein, de tous bords, quoi.
These silent words of conversation hold me now this adulation.
Nous continuerons ça tranquillement lundi. Bonne journée à tous. N'oubliez
pas de venir en soutien cet après-midi. Faut bosser. Oh, it's easy now. Falling like a silent paper,
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Émancipation Générale, un reportage de Fabienne Lomonier, Pauline Mocor et Alice Babin, réalisé par Clémence Grosse et mixé par Antoine Viossa. Merci à Lucas, Hélène Leblanc, Julie Chouillot, Benjamin Marolle, Léon Loiseau, notre attaché de production c'est Mélissa Foust et notre stagiaire François Bréus. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.
And many raged and to rhythm.